Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30.
Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour à tous, nu dans RTL Midi, des nouveaux horaires à partir d'aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 13h30, une heure d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs de RTL. Vous nous appelez au 3210, vous prenez la parole pour commenter l'actualité à la une ce midi. Réunion de chantier à l'Elysée à 2 ans, presque jour pour jour des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'organisation de la cérémonie d'ouverture sur la Seine se présente comme un cauchemar, notamment en termes de sécurité. Le soulagement pour les pompiers et les habitants en Gironde après la teste de bûche, le feu de Landiras désormais fixé, lui aussi mais pas encore éteint. Dans ce journal également, un fiston en or. On va partager la joie de la maman de Kevin Mayer, l'athlète qui a remporté cette nuit son 2e titre mondial en décathlon. En revanche, pour les autres Français au championnat du monde d'athlétisme, 0 pointé, aucune médaille. Comment redresser la barre d'ici les JO? On va en parler avec notre invité Alain Blondel. Et puis chez les médecins généralistes et globalement tous les professionnels de santé, hein, d'ailleurs, le coup du lapin, de plus en plus de patients ne viennent pas au rendez-vous. Non seulement ils ne viennent pas, mais en plus ils ne préviennent pas. Les médecins sont en colère. On va en parler avec Valérie Briolle, la présidente de l'URPS, qui représente les médecins libéraux en Ile-de-France. La question du jour, vous l'avez sans doute vu passer ce week-end, le gouvernement va baisser les taxes sur le carburant 30 centimes par litre à partir de septembre. Avec les 20 centimes supplémentaires promis par Total, on pourrait donc s'approcher du litre d'essence à 1,50€ à la rentrée, donc après les vacances. Est-ce que cette ristourne arrive trop tard? C'est la question du jour. Vous dites oui à 65%, non à 27%. La météo cet après-midi, Louis Baudin, un petit peu plus de nuages.
Exactement, bonjour Alexandre. Des nuages qui vont effectivement gagner toute la France. Hein. Ça circule d'ouest en est, entrecoupé de quelques éclaircies. Et sous ces passages nuageux, quelques averses. Alors, je regarde là, du côté du bassin d'Arcachon, oui. Il y a quelques pluies. J'aimerais bien que ça s'intensifie un peu là, pour aider les pompiers. Ouais, ce serait une très bonne nouvelle. Il va y en avoir un petit peu. Espérons que ça s'intensifie dans les prochaines heures. Puis des averses orageuses, il y en aura aussi près des frontières de l'Est. Pour l'instant, le soleil résiste encore. Il n'y a que près de la Méditerranée, où là je dis ça dans le mauvais sens, parce qu'il n'y aura pas de pluie et toujours beaucoup de soleil, donc la sécheresse va s'aggraver encore de ce côté-là. Le tout avec des températures qui baissent dans la moitié ouest. On va repasser sous les 30 degrés, 20 à 25 degrés en Bretagne, 25 à 30 degrés dans ces régions de l'ouest, mais dans l'est, avant l'arrivée des orages, on dépassera encore les 30 degrés, 35 à Strasbourg, 37 degrés attendus à Montélimar.
Allez, profitez-en et bienvenue à tous sur RTL. Il est midi 32.
RTL Midi.
Dans 2 ans et 1 jour, le 26 juillet 2024, la France va accueillir les Jeux Olympiques à Paris. Mais d'ici là, la route semble encore très longue. Emmanuel Macron a réuni ce matin à l'Élysée une dizaine de ministres, des préfets, ainsi que Tony Estanguet, le président du comité d'organisation. Bonjour Jean-Michel Rascol.
Bonjour.
Ce matin, sur la table, plusieurs dossiers épineux, notamment un casse-tête, celui qui va représenter l'organisation de la cérémonie d'ouverture.
Oui, un casse-tête à la mesure de l'ambition que représente cette cérémonie sur la scène. 160 péniches et barges qu'il convient de sécuriser, des spectateurs sur les bords de Seine et sur les quais, des flux de population qu'il faut anticiper. Il faudrait mobiliser tous les flics de France pour sécuriser un tel spectacle, confié récemment un spécialiste du dossier sur les 6 km du parcours entre Bercy et la Tour Eiffel. La préfecture de police a déjà prévu d'acquérir une trentaine de gros zodiacs pour une sécurité rapprochée des embarcations, des drones se chargeant de scruter le ciel. Le problème, c'est que l'on n'a aucune expérience d'un tel événement. D'où la préconisation avancée récemment par Guy Dru, membre du CIO, qui n'a pas été retenu.
Pourquoi pas avoir imaginé un plan B? Pourquoi ne pas imaginer la même cérémonie sur les Champs-Élysées ou en Champ de Mars? Il y aura autant de personnes, c'est aussi iconique la Tour Eiffel que la Seine. C'est pas évident, quoi. C'est beaucoup plus difficile de sécuriser la Seine que le Champ de Mars ou les Champs-Élysées. Il peut toujours y avoir des faiblesses sur la Seine.
Et tout cela aura un coût. Le budget des Jeux était également sur la table ce matin. Il est pour l'instant calé à 7,3 milliards. Tous les départements de Paris 2024 font la chasse au gaspillage. La société de livraison des ouvrages olympiques table sur une augmentation pour sa partie de l'ordre de 10%. L'autre sujet sensible concerne les transports, principalement entre le centre de Paris et Roland-Garros et entre le nord de la capitale et le Stade de France, et l'usage des voies olympiques qui réduiront la circulation, dispositif susceptible de faire naître quelques tension.
Jean-Michel, on a vu ce que ça donne hein, au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions, quand le dispositif de sécurité comme ça est dépassé. Bon, j'imagine que pour les Jeux Olympiques, on va en tirer des leçons.
Eh bien, le rapport des sénateurs sur les incidents du 18 mai est plus qu'un document de travail. Le dispositif sécurité de tous les sites va être à nouveau analysé par les services du ministère de l'Intérieur. Le fiasco du Stade de France doit agir comme un avertissement. Stéphane Troussel est le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
D'abord, il faut que les incidents, disons-le même, ce chaos, soit une alerte pour tous ceux qui sont mobilisés pour réussir les Jeux. Mais en même temps, ce qui s'est passé ce soir-là doit nous servir des leçons en matière d'organisation, d'anticipation, de transport, de gestion des flux, des entreprises de sécurité, pour que jamais ça ne puisse se reproduire.
Une bonne nouvelle pour finir, Alexandre. Paris 2024 dévoile ce soir son plan de billetterie. Vous pourrez assister aux compétitions à partir de 24 euros.
Ah bah c'est une bonne nouvelle, merci beaucoup Jean-Michel Rascol. L'une des solutions pour faire face à ce défi de sécurité, c'est sans doute de faire appel à des agents de sécurité privés, mais là encore, ça pourrait poser problème. Bruno Certa, représentant des agents de sécurité dans les Alpes-Maritimes.
À l'heure actuelle, oui, ça semblerait être très compliqué. Je pense que dans les deux années qui viennent, si notre métier n'est pas revalorisé de manière très importante, ce sera un vrai problème. On a alerté quand même l'ensemble des partenaires sociaux, pas trop de roues, et à partir de là, je vois que rien ne bouge véritablement. Nous espérons quand même que dans les mois qui viennent, les choses vont réellement bouger pour donner un vrai coup de pouce à ce métier. Il faut trouver vraiment le personnel qualifié et qui accepte de venir travailler pour des rémunérations qui ne dépassent pas, pour la plupart des coefficients, le SMIC.
Voilà des propos recueillis par Gilles Rousset-Favier pour RTL.
RTL Midi.
En Gironde à présent, après 12 jours de lutte acharnée contre les flammes, les deux énormes incendies sont désormais sous contrôle. C'est une bonne nouvelle. Bonjour Philippe de Maria.
Bonjour Alexandre.
Alors c'était déjà le cas pour le feu de la Teste de Buch. Les autorités viennent donc d'annoncer que celui de Landiras est également fixé.
Exactement, les mots sont prononcés ce matin avec un certain soulagement par la préfète de région qui est sur le pont depuis le début de la crise. Écoutez Fabienne Bussiot.
Le second feu de Landiras est déclaré fixé à partir de maintenant. Et cela veut dire aussi que les populations peuvent réintégrer leur habitation. Alors ça a été un peu plus long sur Landiras. Vous connaissez la particularité de cette forêt avec la tourbe au sol. Mais aussi le fait qu'il y a des hameaux, des villages qui sont à l'intérieur de la zone brûlée. Donc voilà, il a fallu qu'on prenne un certain nombre de précautions pour permettre à la population de réintégrer leur maison. Mais ça y est, maintenant, ils peuvent. En ce moment même, ils sont en train, je pense, de le faire.
Voilà, alors le feu est fixé, mais pas encore totalement éteint. Il reste encore un petit peu de travail pour les pompiers. On commence, en tout cas, à comprendre un peu mieux l'ampleur des dégâts.
Exactement, 12 jours de combat intense contre ce double incendie hors norme par sa surface, l'équivalent de 14 000 terrains de rugby détruits à la Teste ou 28 000 à Landiras, pour se faire une idée un petit peu plus précise. Jusqu'à 3 000 pompiers de toute la France et même de Suisse engagés sur le sinistre et parfois 8 bombardiers d'eau dans les airs et 131 km de pare-feu dégagés pour stopper l'incendie. Et puis les autorités s'enorgueillissent du bilan humain. Aucune victime à déplorer, mais 25 blessés légers chez les pompiers. Voilà pour ce premier bilan. Mais le chantier, vous le disiez, n'est pas terminé. La surveillance des deux foyers reste très serrée sur le terrain.
Philippe de Maria en Gironde pour RTL. Dans l'actualité également, la bourde de Gérald Darmanin suite à l'agression de plusieurs policiers à Lyon. Le ministre de l'Intérieur a rapidement annoncé l'arrestation d'un suspect. Finalement, mis hors de cause, il sera quand même expulsé. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, était ce matin l'invité de RTL. Et donc, on l'écoutera peut-être un petit peu plus tard dans ce journal. On va passer maintenant à l'Assemblée nationale. Ce week-end, un léger tremblement de terre lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative. Le groupe de députés Horizon, le mouvement d'Edouard Philippe, a voté contre l'avis du gouvernement. William Galibert, c'est une première.
Oui, une rébellion à 120 millions d'euros. Samedi soir, que s'est-il passé? Les députés Horizon, ils étaient 13, ont voté pour un amendement qui donnait des crédits supplémentaires au département. Grâce aux oppositions, cet amendement est passé, le gouvernement n'en voulait pas et ça a mis Bruno Le Maire de très mauvaise humeur.
Je redis à quel point je suis stupéfait de voir des parlementaires qui sur les plateaux de télévision à longueur d'interview n'ont que le mot rétablissement des finances publiques à la bouche qui engage telles dépenses publiques.
Le message visait clairement le maire du Havre et ses troupes. Derrière cet épisode, il y a plusieurs choses. D'abord, le parti d'Édouard Philippe, vexé de ne pas être autant bichonné que les Républicains par le gouvernement. Ensuite, Horizon veut marquer un peu ses différences avec en vue des élections sénatoriales l'an prochain et des postes à conquérir. Et puis, il y a aussi en filigrane des ambitions pour 2027. Déjà, Emmanuel Macron sera hors-jeu. Bruno Le Maire et Édouard Philippe font partie des prétendants. C'est un match qui va durer presque 5 ans. Mais qui a déjà commencé.
William Guélibert du service politique de RTL. On en revient à Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui était donc l'invité ce matin de RTL et qui réagissait après la bourde de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui avait annoncé l'arrestation d'un suspect après l'agression de plusieurs policiers à Lyon. Suspect qui a finalement été mis hors de cause.
Je pense qu'on est dans la confusion des choses. Il s'avère que cet homme, à propos duquel le parquet dit qu'il est hors de cause, cet homme a déjà été condamné à de nombreuses reprises et il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui est une décision administrative. Et Gérald Darmanin a dit qu'elle serait exécutée. Moi, j'ai rien d'autre à dire, je suis un fervent partisan de l'état de droit que je défends bec et ongle.
Éric Dupond-Moretti ce matin avec Olivier Bois sur RTL. Il est 12h40.
RTL midi.
Kevin Mayer, désormais double champion du monde du décathlon. L'athlète français a remporté cette nuit un nouveau titre mondial aux États-Unis. Toute sa famille était autour de lui pour l'accompagner dans l'Oregon. Toute sauf Carole, sa maman, la maman de Kevin, qui a vécu à distance deux jours pas faciles.
Ça fait deux nuits que je ne dors pas pratiquement. Je passe ma vie à faire des allers-retours dans mon jardin et dans ma maison.
Vous vous dites pas des fois, qu'est-ce qui me fait faire? Qu'est-ce que c'est dur quand même?
Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il aurait pu faire des 100 mètres. Je sais pas, il aurait pu jouer aux boules. La pétanque, je sais pas si c'est moins stressant, plus stressant, mais ce décathlon, c'est un truc de malade. Qu'est-ce qui s'est lancé là-dedans? C'est ce que je me demande tout le temps, mais en même temps, c'est tellement beau ce sport. C'est l'athlète à l'état pur, c'est magnifique.
C'est une belle récompense pour lui. Ça va lui donner un petit coup de boost.
Ouais, franchement, c'est vrai que ça a été très très compliqué. Il a eu plein de bobos. Et Kevin, malheureusement, il est un petit peu comme moi. Il a un naturel un peu dépressif. Alors quand tout va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. Donc oui, ça a été super compliqué pour lui et c'est d'autant plus magnifique.
Vous avez hâte de le serrer dans vos bras?
Ah oui. Ah bah déjà, je l'ai eu au téléphone hier. C'était très 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 émouvant, très très. Très.
Voilà l'émotion de la maman de Kevin Mayer, interrogée par Isabelle Langer pour RTL. On est en ligne avec Alain Blondel, ancien athlète français et notamment champion d'Europe du décathlon en 94. C'était à Helsinki. Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Alors j'imagine que cette nouvelle médaille d'or pour Kevin Mayer, c'est aussi une grande fierté pour vous. Hein, vous savez l'effort que ça représente.
Oui, comme le disait Carole, c'est un truc de malade en fait le décathlon. Non seulement pour ceux qui sont sur le terrain, parce qu'on a l'habitude de dire, j'avais l'habitude de dire moi à l'époque de ma carrière que tout simplement on vivait en deux jours toutes les émotions d'une vie, la peur, l'angoisse, le stress, la joie, le bonheur, et on était obligé de gérer ça le plus rapidement possible et de passer de l'un à l'autre en essayant d'oublier ce qui s'était passé juste avant. Et puis pour les suiveurs c'est encore pire parce qu'on n'a pas la main du tout dessus, donc on est complètement prisonnier des performances que vont bien vouloir réaliser des garçons comme Kevin, et vu l'intensité que met Kevin dans la gestion de ses émotions, c'est assez impressionnant. Donc c'est effectivement, je comprends bien le yo-yo qu'a vécu Carole.
Oui, et puis du stress il y en a eu, parce que au départ c'était pas vraiment bien engagé, hein.
Non, c'était pas gagné du tout. Et ça fait seulement 2 mois et demi, 3 mois que Kevin recommence à courir à peu près correctement, embêté avec des problèmes de tendons d'Achille. Il l'a répété assez souvent. Et surtout qu'on s'est bien rendu compte qu'il manquait pas mal de travail de course. La première partie du 100 mètres est bonne. La deuxième, il a du mal à finir sa course. Et on se doutait très bien que ça allait être compliqué à suivre. Et j'avoue que personnellement, moi, j'étais assez inquiet en fin de première journée. Je voyais très bien Lepage, le Canadien, finir devant lui, surtout avec les progrès qu'il avait pu faire. Et j'étais encore plus inquiet après, non seulement le 110 et le disque. Et puis, Kevin a été chercher tout simplement sa victoire au saut à la perche, comme souvent dans le décathlon.
Bon, alors Kevin Mayer, c'est un truc de ouf, c'est génial, mais quand on regarde le bilan des Français à part ça, il n'y a eu aucune autre médaille remportée par la délégation française aux champions du monde d'athlétisme. Vous faites partie du comité olympique pour Paris 2024, Alain Blondel, ce bilan, il n'est pas franchement rassurant.
Oui, je fais partie du comité d'organisation, pas du comité olympique.
Hein, pardon, comité d'organisation.
Comité d'organisation, oui, oui. Parce que je suis le manager athlétisme et parathlétisme, donc en charge de l'organisation de l'athlétisme. Donc effectivement, nous on n'a pas du tout la main là-dessus. Et effectivement, pour nous, ça serait intéressant d'avoir une équipe de France qui soit extrêmement dominante, surtout 2 ans avant. Ça serait extrêmement prometteur. Par contre, il y a peu de surprises de voir les résultats et de s'en remettre à Kevin et à Renaud Lavilloni, qui était vraiment pas très très loin d'aller chercher encore une autre médaille dans un championnat du monde. Pour l'instant, la relève met un peu de temps à venir et on n'aura pas trop de 2 ans justement pour permettre à certains de se positionner un peu plus. Il y a un petit manque de réussite chez certains, je pense à Quentin Bigot au marteau par exemple, d'autres éventuellement c'est à Sirena Semba Mayela sur les M. Et le manque de réussite ou la réussite, ça se provoque dans les grands championnats. Kevin a été le chercher, Renaud est capable d'aller le chercher, donc je crois que les 2 ans qui restent à venir pour les athlètes français vont être à mettre à contribution pour aller justement chercher cette capacité dans les grands championnats à passer au-delà d'un record personnel ou de leur performance actuelle.
Oui, ça va être 2 années particulièrement précieuses pour les sportifs français. Merci beaucoup Alain Blondel d'avoir été en ligne avec nous ce midi, ancien champion d'Europe du décathlon et donc membre du comité d'organisation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. On passe au Tour de France de Copenhague jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées hier soir. Le peloton dominé par le Danois Jonas Vingegaard a affolé les compteurs. 42 km/h de moyenne, c'est tout simplement du jamais vu. C'est même plus rapide que du temps de Lance Armstrong. Le peloton a roulé très vite cette année. Les Français sont restés un petit peu derrière. On a eu certes une victoire d'étape, celle de Christophe Laporte, mais les Français ne nous ont pas vraiment fait vibrer pendant ce tour. Nicolas Georgerot, bonjour.
Bonjour.
Alors on a eu aussi David Godu quand même qui était quatrième, c'est pas mal. Est-ce que c'est une belle promesse pour l'avenir?
Oui, il est ambitieux et il veut faire un podium sur le tour dans un futur proche, c'est certain, et sa marge de progression est intéressante, mais c'est aussi une quatrième place un peu en trompe-l'œil, car il finit à plus de 13 minutes 30 de Vingegaard. C'est l'écart le plus conséquent depuis 99 entre le vainqueur et le quatrième. Il reste du travail, confirme Marc Madiot, le manager de David Godu et de l'équipe Groupama FDJ.
Sur les grands moments d'action, on n'était pas avec Pogacar et Vingegaard, mais on était dans le lot juste derrière. Moi, je mesure ce qu'il nous reste encore à franchir pour être encore mieux devant et plus facilement devant. Il faut qu'on soit capable d'encaisser les grosses accélérations sur 15 à 30 minutes et après, ça change notre course.
Le rythme en montagne, le contre-la-montre aussi, le Français a perdu quasiment 3 minutes sur le Danois en 40 km de chrono, c'est beaucoup. C'est rédhibitoire même à ce stade et il connaît donc ses chantiers pour l'avenir.
Nicolas Georgerot pour RTL, un Français qui était absent du Tour de France, c'est Julian Alaphilippe. On apprend à l'instant qu'il est positif au Covid et donc forfait pour le reste du Tour de Wallonie. En football, c'était une décision attendue pour l'avenir des Girondins de Bordeaux. Le Comité National Olympique et Sportif Français a rendu un avis favorable au maintien du club en Ligue 2, sans aucune restriction. La décision finale appartient maintenant à la Fédération Française de Football. Allez, on marque une pause dans ce journal et dans un instant, le coup de gueule des personnels de santé. De plus en plus de patients prennent rendez-vous, mais ils ne viennent jamais.
RTL Midi
avec Alexandre de Saint-Aignan.
RTL Midi,
Alexandre de Saint-Aignan.
12h48 sur RTL, on parle à présent d'un phénomène qui prend de l'ampleur et qui agace profondément tous les professionnels de santé. De plus en plus de rendez-vous ne sont pas honorés par les patients. C'est le cas notamment pour Céline, ergothérapeute en Haute-Savoie.
J'ai l'impression que c'est un phénomène qui s'accélère. J'ai toujours eu des rendez-vous qui étaient annulés au dernier moment, mais ça restait anecdotique. Et je trouve que là, depuis 2022, là, mes courbes augmentent vraiment en impayés. J'ai remarqué que là, en juillet, j'avais eu une dizaine de rendez-vous annulés. Ça représente 320 euros à peu près. C'est très régulier. J'ai vraiment l'impression que le soin est devenu quelque chose de tellement courant, banal, en fait, que les gens ont un petit peu moins de respect, je trouve, à honorer les rendez-vous. On ne peut pas forcer les gens, en fait, à régler les séances qui n'honorent pas, en fait. Donc, malheureusement, je n'ai pas de solution idéale et en termes de temps, je ne peux pas me permettre de rappeler tous les patients le matin en les prévenant qu'ils ont bien rendez-vous, en fait. Ça, c'est pas possible de faire ça.
Voilà des propos recueillis par Nerissa et Mani pour RTL pour en parler ce midi. On est en ligne avec le docteur Valérie Briol, rhumatologue en Ile-de-France. Bonjour.
Bonjour, je vous remercie de vous intéresser à ce phénomène. Donc, en tant que présidente de l'Union
régionale... Vous êtes également présidente de l'IRPS, médecins libéraux franciliens, hein, c'est ça?
De l'Île-de-France, notre commission démographie, parce que ça concerne vraiment un problème démographique, a fait une enquête qui a concerné 2000 médecins qui ont répondu. Mmh. Et il s'avère, comme disait notre collègue tout à l'heure, que c'est ergothérapeute, que c'est une tendance qui est en hausse pour 57% de nos médecins. En effet, ils constatent que c'est quelque chose qui augmente, qui s'accélère.
Alors, ça concerne.
C'est dû à plusieurs phénomènes. Certains parlent un peu de consumérisme, des rendez-vous gratuits. Pour nous, ça concerne à peu près 69% de cas, c'est pour les nouveaux rendez-vous des nouveaux patients. Donc c'est peut-être des grâce aux plateformes des rendez-vous. Mmh. Donc il y a 2/3 des rendez-vous qui sont pris par ce biais. On multiplie les tentatives auprès de plusieurs médecins et finalement on va se rendre à celui qui a le rendez-vous le plus proche en oubliant de décommander les autres. Or ça représente
si c'est les nouveaux patients, excusez-moi, ça veut dire que si on en tant que médecin on a envie de faire une liste noire, si voilà on a un patient, on a remarqué qu'il n'avait pas honoré son rendez-vous, si on le met sur une liste noire, si à chaque fois c'est des nouveaux patients, donc c'est difficile de pouvoir faire ce genre de choses.
Oui, bah oui, c'est ça. En général, on ne le fait pas. Ou alors, peut-être si on voit que la personne est coutumière, si elle le fait 3 fois de suite, là, bon, on va dire, tiens, on va repérer cette personne. Mais en réalité, ça concerne énormément de rendez-vous par an. On estime que c'est 27 à 28 millions de rendez-vous annuels. Donc, ça comprend 1 à 2 rendez-vous
énorme.
Par jour, par médecin, jusqu'à 5 à 7. Alors, aussi bien ça freine l'accès aux soins qui s'aggrave, qui est de plus en plus difficile. Île-de-France, par exemple, est devenue la première au dernier zonage région de difficulté d'accès aux soins. Donc, si vous amputez votre temps médical, ça représente 1 à 2 jours d'exercice professionnel par médecin en exercice chez nous en Île-de-France. Et sinon, on avait fait le calcul que ça représentait en national 4000 médecins, comme si on avait supprimé 4000 médecins en exercice.
Bon,
c'est bien dommage.
Docteur Valérie Bouillol, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce phénomène ?
Alors, ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, merci RTL et merci les médias de s'y intéresser, c'est-à-dire essayer de faire une campagne de sensibilisation pour les patients, qu'ils sachent que lorsqu'ils n'annulent pas un rendez-vous à l'avance, ils freinent la possibilité pour un autre patient qui serait en situation parfois d'urgence de prendre un rendez-vous pour lui-même ou pour sa famille. Donc, c'est déjà en fait du civisme, c'est-à-dire de prendre la peine de se dire « Ah, mais j'ai un rendez-vous ». Et alors, il y a peut-être une possibilité, via les plateformes, justement, de bloquer, par exemple, s'il y a 3 rendez-vous pour un même type de médecin, pour un ophtalmo ou pour un médecin généraliste, qui sont un peu les plus concernés par le phénomène, eh bien, la plateforme bloque en disant « Vous ne pouvez pas prendre ce rendez-vous tant que vous n'avez pas annulé le précédent ou les 2 autres
». Bon, en tout cas, c'est important d'en parler, c'est important que le message soit passé. On l'a entendu, votre message, Valérie Bouillol, présidente de l'URPS Médecins Libéraux en Île-de-France. Je vous souhaite une très bonne journée et je propose également aux auditeurs de pouvoir reparler de ce sujet si ça vous intéresse. Venez témoigner si vous êtes médecin, si vous êtes personnel de santé, si ça vous arrive, voilà, ces annulations en cascade, venez nous en parler au 3210. On en reparle juste après 13h. Allez, dans un instant, on va découvrir un nouveau métier ensemble grâce à Agnès Bonfillon, notre collègue qui est devenue soigneur auprès des singes tout l'été. RTL en immersion.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL en immersion.
Tout l'été, les journalistes de la rédaction nous font découvrir un métier et ce midi, c'est Agnès Bonfillon qui s'y colle. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Vous avez pu suivre Anne-Hélène qui travaille depuis 15 ans à la Vallée des Singes. Elle est soigneuse animalière. Un parc à 1 heure au sud de Poitiers. Ici, tous les primates sont en semi-liberté.
Et j'arrive en pleine préparation du petit-déj.
On va préparer toutes les rations pour le matin.
Donc là, on a des poivrons, des carottes, des endives.
On peut varier tous les jours, hein, on change.
Et là, il y a des petits vers vivants, donc.
Voilà, là, c'est des vers de farine, ouais. Pour les petits singes, ouistiti, tamarin, saïméri, souvent, on ça.
Là, elles te mettent un petit peu de pression ou pas ?
Tu les vois, ouais, elles font ça. Et encore, là, ça va, c'est mignon. Vu qu'elles nous voient dans la cuisine, elles trépignent un petit peu.
Là, ça s'impatiente. Oh là 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 là.
bizarre, tout le monde arrive. Là, ce sont des vocalises entre mère et enfant. Pour t'aider.
Tu sais qui est qui, là?
Ah bah oui, mais tous, hein. Tous ceux qui travaillent ici. Après, on les reconnaît de profil, de dos, en haut des arbres.
C'est un moment clé pour vérifier que tous les singes sont en forme. Justement, Anne-Hélène voit que l'un des petits pensionnaires a besoin d'antibiotiques, mais c'est un autre soigneur qui va s'occuper de la capture.
On n'attrape jamais nos singes parce qu'après, la confiance, elle est perdue. C'est souvent quelqu'un d'un autre secteur qui ne travaille pas avec le singe qui va venir. Donc là, les vocalises que tu entends, c'est des vocalises de menace pour dire à Thomas, on l'aime pas à lui, donc elle le déteste. Voilà.
Saut de fruits et légumes frais à la main, nous voilà partis nourrir les geladas, de magnifiques singes éthiopiens, plus imposants.
Bonjour. Tu vois le petit sourire? Là, ça veut dire je suis pas hyper rassurée. Ça, c'est pas hyper rassurant.
C'est l'avocat qui fait cet effet?
C'est l'avocat, oui.
Je vais leur donner des croquettes, ils adorent ça. C'est des croquettes spécialement conçues pour les singes africains.
En langage singe, ça veut dire on en veut, dépêche-toi.
C'est un peu ça, ouais. Là, ils nous menacent. C'est parce qu'on regarde trop ses enfants.
On ne fait pas des malins, hein, c'est ça.
C'est juste de la protection. Donc il n'y a rien d'agressif.
Il y a toujours une raison.
Il y a toujours une raison, ouais, tout à fait. Ce n'est pas de la violence gratuite.
Bon, maintenant que les singes sont dehors, allez-y Agnès. Hein, c'est le moment de tenter votre chance.
Donc là, on met nos bottes pour aller sur une petite île.
Ouais, c'est ça, on va aller sur l'île avec les tamaragnons à tête dorée, les ouistitis et les singes hurleurs.
Ah oui, d'accord, on va vraiment dans l'eau, là. Alors attention, je sens la catastrophe arriver.
Tu te mets dans mes pas, là.
Ouais, d'accord.
Ok.
Vous venez? Tout va bien, c'est cool. Ouais, on y va?
Le grand singe qui est en face de nous?
C'est un singe hurleur.
Bon, il a l'air plutôt sympa, surtout intéressé par ce qu'on apporte à manger. Je tente ma chance.
Ah, d'accord, super. Le vent que je me suis pris.
Il n'a pas du tout envie de manger ce que je lui donne, moi. Elle me tire la langue, ok.
Voilà, là c'est de la menace, mais gentil. C'est beaucoup d'esbrouf. Hein.
Vous venez, la petite famille, là-bas?
Ce qui l'intéresse, c'est ton micro, là, carrément.
D'accord, je vais essayer de ne pas me faire piquer le micro.
Les boulettes, là.
Maggie. Ah bah non, mange pas mon micro.
D'accord.
D'accord, pardon, ok.
Excusez-moi.
Pardon.
Je me suis égarée.
Je peux te prendre en photo, Maggie? Pour le site RTL. Je sais que tu veux prendre mon micro. Salut. C'est le moment de repartir de l'île.
Ah, on sent que vous êtes dans votre élément, Agnès. Est-ce qu'il faut avoir une formation pour devenir soigneur animalier?
C'est mieux, c'est plus simple, mais rien d'obligatoire. En France, une dizaine d'écoles existent, une chose dont je suis sûre après ma rencontre avec Anne-Hélène. Avant d'être en métier, soigneur animalier, c'est une passion. Le salaire dépasse rarement le SMIC, avec des exceptions en fonction du lieu où vous travaillez.
Merci Agnès Bonfillon, RTL en immersion. Une chronique évidemment à retrouver en podcast sur rtl.fr. Allez, dans un instant, les auditeurs ont la parole.
RTL Midi
avec Alexandre de Saint-Aignan.